De meilleure tribune PSG sur France Bleu.
Bonsoir, bonsoir à tous. La température monte à tous les étages au PSG. Ça nous promet un beau programme pour cette émission. Un très beau programme. Ça chauffe pour les joueurs, bien sûr, en stage à Doha depuis hier. Et pour Bruno Salomon qui les a suivis, on va le retrouver en direct dans quelques instants pour parler de ce stage. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'enjeu? Bah mine de rien, c'est un voyage qui pourrait peser lourd dans l'avenir proche du PSG. Peser lourd sur tous les plans. Ça a bien chauffé aussi sur la pelouse du Parc des Princes hein, cette semaine avec la première défaite de la saison. Le PSG s'est bien repris ce week-end à Amiens. On va voir si la page est déjà tournée. Du côté du Mercato, eh ben c'est pas encore bouillant, mais ça va peut-être le devenir. Ça se précise pour le recrutement d'un milieu de terrain. On va tout vous dire dans cette émission. Et puis la température continue de monter aussi. À un mois, un petit peu moins maintenant, du choc de Ligue des Champions contre Manchester United. Encore vainqueur cette fois à Tottenham. On fera le point sur cet adversaire toujours plus redoutable. Et d'abord, j'accueille toute l'équipe, la team de Tribune PSG, notre grande prêtresse des réseaux sociaux, Émilie Ross. Comme d'habitude, vous avez un commentaire, un coup de gueule, un coup de cœur, vous laissez sur notre live. Et si vous lui disiez, si vous dites quelque chose qui lui plaît, si vous lui faites une petite blague, un petit mot sympa, eh bien,
exactement,
ça sera peut-être
voilà,
dans l'émission,
hein, Émilie. Etc. Mais effectivement, je suis là pour réagir avec vous sur les réseaux sociaux en direct. N'hésitez pas.
Et bonjour à tous, bien sûr, qui nous rejoignez. Tonton Steph, foot123.fr, ici c'est France Bleu Paris, tous les matins sur notre antenne. Comment ça va, Tonton?
Ça va très bien.
Bien merci. Mis après la première défaite de la saison, en tout cas du
pas
côté
digéré
des
encore,
nationales.
Mais
voilà. Merci, je disais la même chose.
On a passé un meilleur week-end quand même.
C'était déjà mieux.
On va y revenir, bien sûr, Joss, notre youtubeur foot, sport et rap. Comment ça va, Joss?
Hello, ça va très bien.
Je te voyais faire la moue quand je parlais de Manchester United tout à l'heure. Ouais. Comment tu le sens, toi, moins d'un mois maintenant de...
Déjà, est-ce que tu comprends quand je dis BPL?
BPL, British Premier League, jusque là ça va.
La semaine dernière j'ai dit BPL, on m'a dit non c'est Premier League Joss. Effectivement c'est la Premier League, mais on va parler de Manchester qui, comme je le disais, est de retour j'ai l'impression.
C'est de plus en plus lourd, on va y revenir bien sûr à la fin de cette émission. Bonjour Bertrand Métayer du Parisien.
Bonjour à tous.
Notre ami du Parisien présent comme tous les lundis dans cette émission, comment ça va Bertrand?
Bah écoutez, ça va bien, un petit séjour très court à Amiens qui nous a remis dans le sens de la marche, c'était très sympa.
Et j'accueille notre invité du lundi, Arnaud Ramsey. Bonjour Arnaud.
Bonjour Emmanuel. Bonjour
à tous. Qui sort ce magnifique livre 11 de légende du Paris Saint-Germain en partenariat avec le PSG, en tout cas validé hein, du côté du
PSG. Oui, c'est un produit licence PSG, ouais,
voilà,
tout à fait.
C'est
ouais.
Un produit licence PSG, mais surtout bah, c'est un parfum de légende hein, qui va flotter dans ce studio pendant un peu plus d'une heure désormais, puisque eh bien, voilà, c'est une sélection un peu subjective, certes, mais malgré tout,
par principe,
voilà,
ouais,
on va en débattre. Mais c'est une belle sélection de joueurs qui ont marqué donc, toute la légende, toute l'histoire du PSG. Et tonton Steph, tu vas être content, il y a Suzik dans l'eau, donc tu peux te détendre.
Si, si il devait y avoir qu'un joueur, il y aurait eu Suzik.
ça fera partie évidemment des débats du jour. J'accueille maintenant notre dernier invité, on l'entend souvent dans cette émission. Il est un peu plus loin que d'habitude. D'habitude, il est souvent à cette place, à ma place. Et cette fois, il est à plus de 4000 km d'ici. Bonjour, Bruno Salomon.
Salut la team.
Hello.
Hello Bruno.
Salut. Hello, hello.
Comment ça va Bruno? T'as pas trop chaud?
Salut, salut. Pas trop chaud, donc c'est la bonne période hein, pour venir au Qatar. Je voulais juste le rappeler, 27 degrés, ça va très bien. 17 en fin de soirée, c'est parfait aussi. Voilà pour le point météo, mais en tout cas ça a chauffé aujourd'hui puisque le PSG est rentré de plein pied dans ce Qatar Winter Tour et il court, en tout cas les Parisiens, ils courent pour le moment, voilà, ils nous font courir aussi un petit peu les médias et ils font pas mal d'opérations marketing. Là, à l'heure qu'il est, dans une petite demi-heure, ça a même commencé il y a une petite dizaine de minutes, pardon, premier entraînement placé par Thomas Tuchel à la Spire Zone, c'est le grand complexe, bien sûr, à Doha, le grand complexe sportif. Ils sont installés là-bas et ils ont attaqué l'entraînement. À noter que Gigi Buffon a été laissé à l'écart et qu'il s'entraîne différemment. Bref, je vous donnerai les petites infos de cet entraînement dans quelques minutes. Mais voilà pour le topo du jour.
Le topo du jour avec une matinée qui a été bien remplie pour toi, Bruno. Tu as rencontré plusieurs joueurs et tu vas nous parler notamment d'une rencontre en particulier puisque tu nous as fait une interview en exclusivité avec André Di Maria.
Oui, effectivement, André Di Maria qui a accepté de nous parler. Seul média français, hein, André Di Maria, il a parlé à des médias chinois, à un média chinois, à un média qatari et à France Bleu Paris, Radio France, pour cette exclusivité. Il y a plein de belles choses, on va en discuter aussi tout à l'heure. La grande phrase, c'est Mbappé sera très certainement ballon d'or. Hein, puis on lui a dit quand même, c'est un de tes concurrents. Il dit non, maintenant on est quatre, on n'est plus trois, il y en a plus trois, on est quatre sur le terrain. Et franchement, un André Di Maria détendu, agréable. Habituellement, l'exercice presse lui plaît pas forcément. Mais là, le côté en one-to-one, en tête-à-tête, où on a pu se poser un petit peu pendant une bonne dizaine de minutes, c'était intéressant. Et il a parlé aussi de Manchester United. Il a dit que c'était vraiment pas la plus belle période de sa carrière et que bon, ça lui faisait ni chaud ni froid de retrouver Old Trafford.
On va bien sûr revenir dans quelques minutes avec toi sur ce bel entretien que vous pouvez consulter d'ores et déjà sur nos réseaux et sur francebleu.fr. Bien sûr, tu parlais d'un exercice un petit peu délicat. Bruno, eh bien, il y a un exercice en ce moment qui est assez délicat aussi, très délicat, et on peut le dire, hein, pour le Paris Saint-Germain, c'est la raison principale de cette visite au Qatar. Ça se joue sur le terrain, sur le tapis vert, hein, sur le terrain du fair play financier. Et en gros, il s'agit de démontrer l'utilité, la légitimité de son principal contrat de sponsoring avec l'autorité de tourisme du Qatar, hein, Bertrand Bataillé.
Oui, c'est ça. En fait, il faut justifier, essayer de rendre concret en fait ce partenariat, cette idée du nation branding, le fait de je l'ai pas bien dit.
Enfin, non. Si,
on a un petit peu
de ça.
Nation branding,
c'était
très bien passé.
Et voilà. Alors après, très honnêtement, c'est vrai qu'on voit quelques photos passées de garçons qui courent dans le désert ou qui visitent le métro de Doha. Je suis pas sûr que ce soit suffisant. D'ailleurs, ça ne l'a pas été suffisant aux yeux pour l'instant de l'UEFA, des inspecteurs de l'UEFA. Mais c'était vraiment terriblement important, à tel point que Paris a pris des risques sportifs, puisque pour conserver et sauver ce mini-stage au Qatar, eh bien, ils ont refusé auprès de la Ligue de jouer le match décalé contre Montpellier, repoussé au calendrier grec, qui pourrait poser un énorme problème de calendrier et de planning si jamais, par bonheur, le parcours européen se poursuit assez tard. Donc voilà, ça montre à quel point il était indispensable et à tel point ce stage au Qatar est presque vital pour le Paris Saint-Germain.
Oui, c'est vraiment un signe intéressant. Ça montre effectivement que Paris tient beaucoup à ce stage. Donc, il y a quand même un enjeu certain, malgré tout.
Ce que tu vois aujourd'hui, en tout cas sur le prisme des réseaux sociaux, c'est effectivement, tu les vois dans le métro. Donc, tu les vois prendre le métro, ok, d'accord. Après, là, on les a vus aussi dans un stade en construction.
Oui, un des neuf stades qui sont en train d'être construits. Il y en a trois qui sont rénovés pour la Coupe du Monde 2022.
Ouais, tous avec leurs casques et leurs pompes de chantier.
Ça donne envie d'aller au Qatar quand on les voit comme ça.
L'idée, on le rappelle, hein, c'est de montrer que c'est de montrer à l'UEFA que le PSG
du Qatar.
Ça, l'idée, justement, c'est ça, c'est de montrer que le PSG ne reçoit pas beaucoup d'argent de la part du Qatar, en tout cas de l'autorité de tourisme du Qatar, pour rien. Un gros contrat au départ, hein, qui était, je rappelle, de 200 millions. Il a été décoté à 100 millions, puis à 58 millions en juin dernier. Et on voit, hein, Bruno, sur place, que les joueurs parisiens ne chôment pas, c'est le moins qu'on puisse dire, donc pour vendre l'image du Qatar à l'étranger. Ah, Bruno qui n'est plus là. Allô, Bruno?
Si, je suis là.
Et tu nous entends?
Si, je suis là. J'ai décidé d'être là. Oui, je vous entends depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. J'entendais bien la question. Non, en fait, c'est vrai qu'il chôme pas juste. Voilà, bon, les petites anecdotes. Hein, on a des joueurs. Donc, bien sûr, effectivement, vous avez vu pour le métro. Il y en a qui sont allés dans des magasins aussi pour parler avec un couturier, un haut couturier d'Inde. Bref, c'est un
bizarre,
peu.
Hein,
c'est un peu baroque. En revanche, par exemple, là, ce qu'ils ont fait sur la partie média aujourd'hui avec André Di Maria, Edinson Cavani, Mbappé, Neymar, Gianluigi Buffon, Thiago Silva, médias chinois, japonais, brésiliens. Là, ils ont envoyé en gros la sauce pour faire parler du Paris Saint-Germain avec derrière Doha, PSG, Qatar, la Spire Zone en vidéo et en fond. Ça, par contre, ça va marquer les esprits, je pense, plus qu'effectivement des joueurs en tête de Playmobil avec un casque de chantier et en train de faire le tour d'un stade en construction. Mais effectivement, on peut se poser la question de savoir l'intérêt. Ce qui est sûr, c'est que le message est plutôt bien passé chez les joueurs. Un garçon comme Thiago Silva a eu l'honnêteté, et Bertrand était là samedi lors du match d'Amiens. Il nous l'a dit, il a dit très franchement, il fait « bon, nous ça nous plaît pas ce genre d'exercice ah, d'aller bien aimé, peut-être ouais.
à, c'est bien, c'est pas langue de bois, effectivement.
À 4000 kilomètres ». Oui, c'est pas langue de bois, mais il le dit, il fait, mais on se rappelle de qui fait chauffer la soupe, et qui fait chauffer la gamelle. Et c'est le Qatar, donc il faut y aller, c'est et il faut, faut faire le boulot, donc. Oui, c'est ça, et qu'il l'a rempli, effectivement, mais il l'a dit un peu comme ça. Donc, bilan des opérations, ils le font tous plutôt avec le sourire.
Qu'est-ce qu'on en dit sur notre live, Émilie, de cette visite au Qatar?
Sur Facebook, ça réagit, il y a Julien de PKFoot qui nous dit « Un stage au Qatar, c'est bien pour l'image aussi, ça montre que le club est dans une autre dimension. » Et c'est confirmé par Perrine qui nous dit « Belle image du PSG aux yeux du monde, quoi. » Après, on a d'autres réactions, on a Sébastien qui nous dit « Ok, Martine à Doha. » Et Nico qui nous dit « Caprice des propriétaires. » Et on adresse le bonjour à Guillaume Tessé. Guillaume Tessé, c'est celui qui fait les croisons là et il nous suit aujourd'hui, donc on l'embrasse.
On lui fait un gros coucou, on l'apprécie beaucoup.
Exactement.
Guillaume Tessé. Tonton, moi je te vois faire l'amour, et d'ailleurs tu faisais l'amour ce matin dans notre édito du matin ici, c'est France de Paris. T'es pas vraiment convaincu par l'intérêt
non,
de ce stage?
Non, je suis pas convaincu du tout. Voilà, quand j'entends ce que vient de dire Émilie, que c'est bien, ça montre qu'on est là. Je pense que la meilleure façon de montrer qu'on est là, c'est d'éliminer Manchester United sur le terrain.
Mais c'est pas compatible, il y a personne qui va te contredire.
C'est pas incompatible. Je pense que le moment est mal choisi. Ça, c'est mon avis perso.
C'est moins marketing, en fait.
À moins d'un mois d'une confrontation aussi importante avec un Manchester qui monte en puissance, ce qui était déjà pas à négliger le jour du tirage au sort, mais qui est de plus en plus costaud, qui a l'effet Solskjaer. Donc en plus, là on l'a vu ce week-end face à Tottenham, donc ça devient du très solide. Et je pense que ce stage est indispensable, je l'ai compris financièrement et l'image que ça envoie, évidemment. Je pense qu'il aurait pu, il aurait dû être casé à un autre moment. Soit sur la fin de la trêve hivernale, quitte à enlever 3 ou 4 jours aux joueurs qu'on avait quand même eu 15 de repos. Soit le mettre après la double confrontation face à Manchester, même si peut-être que derrière il y aura un quart de finale à préparer là, et on l'espère. Voilà, je trouve que le timing est moyen et j'espère qu'on s'en mordra pas les doigts le 12 février et le 6 mars.
Arnaud Ramsey, vous êtes d'accord? Il est mal placé ce stage?
Moi, oui. Je suis pas vraiment d'accord, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un actif, un joueur de foot de Thiago Silva et autres, c'est une marque, c'est des têtes de gondole, c'est des vitrines. Exactement. Ils sont extrêmement bien payés, évidemment, tant mieux pour eux.
Et
on les attend là-dessus. Et c'est ce que dit aussi Bruno, c'est quand il y a des journalistes du monde entier, de Chine, de Russie, du Japon, etc. Donc, c'est une vitrine. Ce qui va valoriser le partenariat et le sponsoring, c'est aussi qu'on les voit partout. On a aussi reproché au Real Madrid et autres leur tournée aux États-Unis en pré-saison. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'ils ne sont pas allés au bout pour certaines raisons? On se souvient des polémiques avec des voyages extrêmement longs. Et le PSG, d'ailleurs, a fait ses pré-tournées aussi aux États-Unis. Ouais. Alors là, ils font pas du tourisme pendant 5 jours. On va retenir que ces images-là, dans le métro, avec Kimpembe et les autres, mais ils s'entraînent quand même tous les jours. Après, s'il y a un reproche à faire, c'est peut-être à la Ligue d'avoir validé le fait que PSG soit autorisé à partir comme ça, en plein milieu de la saison, et risquer le match contre Montpellier.
Alors,
avec des conséquences que ça peut entraîner.
Avant toi, Bertrand, Bruno, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, ouais, je voulais juste rajouter, il y en a un qui a un peu, pour aller dans le, pas forcément dans le sens de Stéphane, mais c'est Thomas Tuchel qui a quand même recadré tout ça. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il est un peu dans l'état d'esprit de Stéphane, en train de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire là-bas à ce moment-là. En revanche, il a quand même bien dit aux organisateurs du stage, donc aux dirigeants, il a quand même mis des choses en place en leur disant, vous êtes gentils, il y a 5 entraînements. Et demain, vous oubliez toute balade dans le désert ou quoi que ce soit.
C'est deux entraînements pour l'équipe. C'est épuisant aussi ce rythme-là, en fait.
Voilà.
Ouais. Ben oui, on est d'accord.
On va revenir sur le côté sportif.
C'est que le coach... Ce que je veux dire, c'est intéressant, c'est quand même que le coach a sifflé la fin de la récréation en disant, bon, ok, il faut y aller, on va se montrer, pas de problème, je le comprends, mais il y a une partie sportive et on va la respecter.
Bertrand Métayeux du Parisien.
Oui, pour revenir aussi sur cette question de date, c'est un petit succès des joueurs parce que effectivement la date initiale imaginée, c'était plutôt avant le 32e de finale de Coupe de France. C'était rogner les vacances qui ont été très longues et voilà, ça a été l'objet d'une grosse négociation entre les joueurs, le staff, les dirigeants. Après, le Paris Saint-Germain n'est pas le seul à le faire. J'ai vu des images images de Paul Pogba à Dubaï et qui ont été tournées il y a quelques jours. Et la Juve a dû partir aujourd'hui à Jeddah, je crois. Donc voilà, c'est un peu le foot moderne.
On peut le regretter, mais aujourd'hui.
Voilà, de la même façon qu'il y a des tournées aux États-Unis et en Asie l'été qui ressemble un peu au Harlem Globetrotters, ce qui sert pas à grand chose, parfois sauf à faire effectivement de la publicité et du commerce, mais c'est le fond de roulement de ce Paris Saint-Germain et de ce football européen désormais.
C'est vrai, avec quand même un enjeu, on l'a dit, hein, particulier pour le Paris Saint-Germain dans le cadre de ce stage, hein, sur le fair-play financier. Est-ce que, question collective, ça peut, et je te la pose aussi à toi Bruno, est-ce que ça peut suffire à convaincre l'UEFA?
Bah, c'est 3 jours. Évidemment que non. C'est vraiment prendre l'UEFA pour des truffes que de croire que de descendre Thiago Silva dans le métro à Doha et de faire poser Meunier avec un casque de Playmobil, ça va faire passer le fair play financier comme une lettre à la poste. Non, j'espère que le
Paris Saint-Germain. Tonton, excuse-moi, est-ce que Manchester, tonton.
Oui, mon Bruno.
Est-ce que Manchester City passe son temps chez les voisins?
Non.
Des Émirats. Non.
Non.
Le problème, il est là. Est-ce que l'Atlético Madrid va en Azerbaïdjan?
Ils ont pas le même contrat, en
mais
fait.
Mais je suis d'accord avec toi.
C'est toujours, on revient toujours à pas la faute originale, mais le problème de base est toujours ce contrat très particulier, avec UTA qui les oblige à faire ça. Ce que n'a pas Manchester City.
On l'a dit, en tout cas, il y a un enjeu du côté du fair-play financier, un enjeu à la fois politique et économique, on peut le dire. Malgré tout, Bruno, on y revient, les Parisiens ne sont pas là uniquement en voyage d'affaires. Ils ont un beau programme du côté sportif, du côté des entraînements. Hein.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ils sont actuellement en train de s'entraîner du côté de la Spire Zone. Il y a aussi demain 2 séances d'entraînement. Il y en a 2 mercredis. Ça va s'enchaîner, quoi. Là, on n'est pas tout à fait en mode Martine à la plage, comme on le disait, ou Martine au Qatar. Là, on est quand même avec un Thomas Tuchel qui veut pas baisser les bras face à tout ce qui est marketing, etc. Les opérations se font appairer. Et ça, vraiment, il l'a souligné. Il l'a bien dit, on me l'a confirmé aujourd'hui dans le staff parisien. Il a vraiment mis, pas dire un veto, mais il a tapé du poing sur la table en expliquant que voilà, il y avait toute une partie sportive. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Thomas Tuchel, il commence à gagner ses galons d'entraîneur chevronné à l'étranger. Pour avoir croisé des supporters hier qui ont accueilli les joueurs du Paris Saint-Germain à leur hôtel, on a discuté avec quelques supporters, dont Saïd, un supporter de foot et du Paris Saint-Germain que j'ai croisé du côté de l'hôtel, et Buffon, Neymar, et chaque fois qu'on pouvait parler avec ces supporters, Tourelle, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Il est vraiment mis en avant et c'est intéressant. C'était pas forcément le cas avec du Unai Emery ou du Laurent Blanc qui avait peut-être une stature, mais voilà. En tout cas, Thomas Tuchel gagne lui aussi ses galons d'être l'un des hommes forts du Paris Saint-Germain.
Joss, Bertrand Arnault, est-ce que ça peut servir ces 5 séances d'entraînement où on est vraiment dans la com, on justifie un petit peu le voyage au Qatar? Est-ce que ça peut aider les Parisiens? On rappelle que c'est une semaine d'entraînement ensemble avant une très longue séance marathon, 16 matchs jusqu'à la mi-mars. Est-ce que ça peut les aider?
Oui, parce que Thomas Tuchel a vraiment prévu de véritables séances qu'il aurait faites de toute façon à Paris. Il les fait sur des bons terrains, des très bons terrains même, dans un environnement agréable. Il garde ses joueurs sous pression parce que ils dorment là où en fait l'hôtel est à l'intérieur du complexe sportif. Il y a vraiment un effet mini-stage. Certes, c'est loin, mais il y a peu de décalage horaire et il voyage dans des conditions excessivement confortables. Donc voilà, ça ressemble pas à un voyage du français moyen. Donc finalement, ça va être des bonnes conditions et peut-être même des meilleures conditions que s'ils avaient passé une semaine au camp des loges.
L'idée, en gros, hein, c'est qu'ils soient surtout prêts
pour l'anecdote.
Le choc contre Manchester, ouais, Bruno.
Ouais, je suis désolé, pardon.
Pas de souci.
J'entends le petit décalage. Mais pour l'anecdote, sachez-le, Marco Verratti nous a dit, ça va permettre de passer 4 jours ensemble, vraiment.
Ah bah Marco, dès qu'il y a du soleil, il est là.
Tu m'étonnes, oui, il est content.
Et Choupo-Moting nous l'a dit aussi en rigolant. Alors, il fait OK, moi j'ai été en Allemagne, j'étais du côté de Stoke City,
mais c'est quand même
pas désagréable. Voilà, c'est ça. C'est pas désagréable d'avoir un peu de soleil pour s'entraîner. Voilà, mais il, Marco, en tout cas, l'a dit sur le côté, voilà, cohésion de groupe. En remettre une petite couche sur la cohésion de groupe. Et ça, je veux bien l'entendre. Ça, moi, je pense que ça peut vraiment servir.
Bruno, tu as pu discuter donc effectivement avec Marco Verratti, avec Eric Choupo-Moting. Tu as surtout pu discuter avec un certain Angel Di Maria, donc interview exclusive que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. 10 minutes d'entretien. Comment tu l'as senti, Angel, en ce début d'année, à un mois du choc contre Manchester, club qu'il connaît très bien?
Ah, franchement, extrêmement détendu. Il faut juste quand même que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé, le début de l'entretien, histoire de vous faire un petit peu sourire. Mais je suis passé juste derrière un média qatari. Et en fait, ce média qatari, je vais pas regarder ce qu'ils ont fait avec lui, il n'y a pas de souci. Mais en fait, à la fin de l'interview, toute l'équipe technique de cette télé est venu prendre des photos. Et ils ont fait des selfies et des selfies et des selfies. Et j'ai vu dans son regard qu'il en avait marre. Et je suis arrivé, et la première chose que je lui ai dit, j'ai fait, je te rassure, entre elles, je te demanderai pas un selfie. Donc ça l'a fait un peu sourire. Et on a pu se lancer derrière dans un entretien de 10 minutes où vraiment, il avait envie de parler, il avait des choses à dire, il a mis en avant vraiment Thomas Tuchel avec cette première information qui est très importante pour comprendre comment ça s'est passé entre Thomas Tuchel et les joueurs cadres du Paris Saint-Germain à son arrivée. Mais il nous confirme, il nous informe d'ailleurs, c'est une information que vous allez pouvoir découvrir en vidéo et à l'écrit, c'est que Thomas Tuchel est allé le rencontrer à Barcelone pendant un stage de l'équipe nationale d'Argentine. Il est allé faire un entretien avec Angel Di Maria et il a bien dit à Angel Di Maria qu'il était hors de question qu'il parte, qu'il fallait qu'il reste avec lui au Paris Saint-Germain. Et ça, vraiment, c'est intéressant de voir qu'il a vraiment été mis dans les meilleures dispositions. C'est ce qu'il dit. Il fait, quand il est arrivé, on a eu cette réunion et il me dit maintenant, ce qu'on veut, c'est que je veux lui rendre, donner mon maximum pour lui rendre l'affection qu'il me porte et de lui prouver sur le terrain qu'il a eu raison de me garder.
Il a aussi témoigné pas mal d'affection pour d'autres de ses principaux partenaires, Neymar et Mbappé, avec des mots assez aimables, comme pas mal d'autres d'ailleurs, pour Kylian Mbappé, Bruno.
Oui, ouais, Kylian Mbappé, effectivement, qu'il voit un de ses quatre ballons d'or. Les seuls mots un petit peu durs qu'il a eu, c'est contre Manchester. Voilà. Je vous lis juste la petite phrase. Je n'y suis resté qu'un an. Cela n'a pas été la meilleure période de ma carrière, ou plutôt, on ne m'a pas laissé passer ma meilleure période. Il y a eu des complications avec l'entraîneur, mais grâce à Dieu, j'ai pu venir au PSG. Voilà. Ça vous donne à peu près la tendance.
Si ça peut le motiver Chester, pour le match. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui demande.
C'est vrai, c'est pas faux, mais en tout cas voilà, un Angel extrêmement détendu, qui avait des messages à faire passer, et pour la Ligue des Champions, il y croit, il a envie d'y croire sur cette saison. Il a aussi un message pour les supporters du...
T'éloignes pas trop de ton micro, Bruno, on t'entend moins bien là.
Remercie. Voilà, il remercie les supporters du Paris Saint-Germain aussi dans cet entretien. Bref, c'est un Angel Di Maria que vous allez découvrir, à découvrir en vidéo, mais aussi en script sur les réseaux sociaux de France Bleu et sur le francebleu.fr.
Petite réaction sur le live avec Émilie, ça
oui,
donne quoi?
Sur Di Maria, tout le monde a hâte de découvrir, effectivement, d'aller voir ton interview. Il y a Joanie, Perrine qui attendent ça. Et juste pour conclure sur le stage du Qatar, il y a Roman qui nous dit « D'accord avec tonton, l'idée est qu'il faut rendre visite aux sponsors parce que c'est eux qui financent. Bien sûr, c'est normal, mais niveau timing, ça ne semble pas idéal comparé à l'an passé. » Et il y a Tonio qui nous dit de toute façon c'est obligatoire pour le sponsoring, pas le choix, et il nous passe le bonjour, il est sur le périph.
Voilà. Comme ça, c'est réglé.
On sait.
Et surtout, reste prudent.
C'est ça, demain sur le volant. Lâchez ce téléphone.
C'est peut-être pas lui qui conduit, Tonio.
Le périph, à ce temps-là, en général, t'es plutôt détendu et tu prends pas beaucoup de risques, ça avance pas.
Effectivement, on va pas très vite. Bruno, rapidement, tu nous donnes un petit peu la suite du programme parce que c'est loin d'être terminé ce stage au Qatar.
Ah bah la suite du programme, c'est qu'on va aller voir un petit peu les champions. Ils attendent pas mal de supporters. Il va y avoir une séance ouverte au public. J'aimerais bien que le Paris Saint-Germain prenne acte de cela et qu'il le fasse la même chose aussi pour les supporters du Paris Saint-Germain à Paris, à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, petit message au passage. Mais c'est vrai, attendez, eux au moins, ils ont la chance de les voir à l'entraînement. En Chine, t'as le droit de les voir. Et à Paris, on peut jamais les voir. Et après, donc ça, ce sera demain soir. et on va aller visiter un petit peu aussi les stades de la Coupe du Monde, dont une ville qui me semble complètement improbable. On y va demain avec d'ailleurs l'ami Ronan Folgoas qui est avec moi. D'ailleurs, vous pourrez découvrir l'interview de Cavani dans le Parisien aussi tout à l'heure matin. Mais voilà, avec Ronan, on va aller du côté de Luzlai. C'est une ville à 20 km de Doha. Qui abrite 80% à Doha des Qataris. Et on va aller dans cette ville qui est une ville champignon, et c'est là où aura lieu la finale de la Coupe du Monde 2022. Le stade n'a pas encore bougé, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont fait le trou.
On est là.
Mais il y a pas de gradin, il y a pas de terrain, voilà, et il y a pas les lampadaires, et il y a une ville qui faisait peut-être 20 000 habitants, et ils attendent 200 000 habitants dans cette ville dans les 4 années à venir. Bref, j'ai envie d'aller voir cette ville un peu champignon.
Ouais, et un peu ça donne envie, hein.
Le Stade de France s'est monté en un an et demi, hein, donc ça paraît pas infaisable.
Par contre, monter une ville de 200 000 habitants, c'est pas rien,
aussi une situation.
Ouais.
Si je peux me permettre.
Ils ont les
moyens. À première vue, tous les immeubles sont prêts.
Bon, bah,
les immeubles sont prêts, mais par contre, il n'y a pas de personne à l'intérieur.
C'est ça. Je sais pas si tu pourras attendre les premières visites de propriétaires, mais en tout cas, voilà, on te laisse du côté de Doha, Bruno, pour continuer de nous faire vivre cette tournée, ce stage des Parisiens au Qatar. Et donc, je rappelle, on retrouve ton interview exclusive avec Angel Di Maria sur francebleu.fr.
Et si tu peux passer un message à Choupeau pour lui dire que je suis la seule aujourd'hui concrètement qui essaye de le soutenir, mais il faudrait qu'il se bouge un petit peu, pépère.
Il est franchement, il est royal.
Ah non, mais je me doute.
Tout à l'heure, Marco Verratti a eu un vrai bon mot. Enfin, on les a croisés dans un mall, un centre commercial, là où on a pu discuter. C'était complètement improbable. C'est-à-dire que c'est des moments qu'on peut pas avoir du côté de Paris. Là, on nous a dit de voilà, vous pouvez discuter avec eux. On a parlé de Manchester United, on a parlé de plein de choses avec eux.
Et Marco Verratti
a eu des vrais mots. C'est ça, ou Avelizi 2. Mais et en fait, Verratti a dit que voilà, Choupeau était super important, et en fait, il dit voilà, c'est l'ambianceur, c'est un vrai bon gars.
Adil Rami des Bleus.
Il met l'ambiance dans le groupe. Ouais. C'est le Adil Rami ou c'est le David Luiz. Voilà, c'est ce qui a, voilà, c'est.
En tout cas, on aura
David Luiz qui
joue pas. Vous voyez bien ce que je voulais dire, quoi.
Allez, on t'embrasse, Bruno. On aura un petit moment pour Eric Choupo-Moting tout à l'heure dans la séquence Mercato.
Moi aussi, des gros bisous.
Et ne te couche pas trop tard ce soir, bien sûr. Ciao, Bruno.
Non, faut que j'aille border Ronan.
Oui.
Et le bonjour à Ronan, bien sûr. Le bonjour à Ronan, bien sûr. Tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais dire que Choupo était le seul manque dans le livre d'Arnaud.
Mais il a fait le choix, il a été éliminé au dernier moment.
Merci. On aura l'occasion de débattre dans quelques minutes de ce beau livre 11 de légende signé Arnaud Ramsey, bien sûr. D'abord, retour les amis sur le terrain. Avant d'aller sous le soleil du Qatar, nos Parisiens ont eu une douche froide la semaine dernière. Élimination en coupe de la Ligue contre Guingamp samedi. Alors, samedi, ils sont allés gagner assez tranquillement sur le terrain, Damien, 3-0. Est-ce qu'ils se sont bien repris, nos Parisiens, les amis?
Ils ont fait ce qu'il faut. Franchement, ouais. La première mi-temps était d'un ennui total Non, deuxième c'était un petit peu mieux.
Paris n'est pas au top en ce moment. On peut le dire depuis la qualification.
Avant, je trouve que depuis Liverpool,
Bordeaux, Strasbourg, Orléans, ça a été compliqué. Pontivy, on peut pas. Et Guingamp, la défaite. Et Amiens, poussif. Donc c'est peut-être la chose la plus positive de ce séjour au Qatar. J'espère que là, il va se repasser quelque chose et qu'ils vont repartir de l'avant comme ils étaient en début de saison.
Mais après, ils ont passé beaucoup de temps à répéter, que ce soit Tourelle, que ce soit Thiago Silva, en disant que c'est très difficile en fait d'être sous pression en permanence et de se motiver. Hein. Alors, bon, de loin, on peut dire oui, c'est pas très compliqué.
Guingamp.
C'est des professionnels. Tous les matchs doivent être joués à fond.
Oui, mais en fait, la réalité, et tous les acteurs le disent, c'est qu'ils ont beau être professionnel, quand on joue tous les trois jours, c'est compliqué, et que ce soit peut-être de façon un peu inconsciente.
Non, mais
se relâche un petit peu.
Après, pas dans ces conditions-là. Pas dans ces conditions.
Pour moi, c'est vraiment un accident, Guingamp.
Oui, mais ça vous aura quand même.
On
montait tous ces matchs et on se disait peut-être que Paris gagnera pas forcément tous les ans les deux coupes, mais on imaginait Paris tomber à Saint-Etienne, face à Lyon, face à mais pas face au dernier de Ligue 1.
Mais
quand même.
En fait, il y a plus de raisons de tomber contre le dernier de Ligue 1 à domicile parce qu'on joue un peu dans des pantoufles. Voilà. Quand ils vont aller jouer le match à Lyon là dans trois semaines, là ils auront à cœur d'aller leur mettre 2, 3, 4, 5-0 s'il le faut, parce que toujours imprimer sa marque et tout ça.
Bah, ça veut dire mais qu'il existe. Il y a un problème de mental alors encore dans l'équipe.
Mais non, mais
sur le même temps dans cette même soirée.
C'est une défaite dans la saison.
Non mais oui, mais c'est la raison.
Tu parles des 9-0 de City.
Voilà, les données que tu donnes, c'est pas acceptable pour un club professionnel. Dans ces cas-là, dans la même soirée, t'avais City qui mettait 9-0 à une équipe
en Coupe anglaise. Niveau,
Guingamp, dernier de Ligue 1, les amis. On est les premiers, ouais, on a un budget après, incroyable. Et le pire, c'est que sur cette soirée-là, il y avait tous les acteurs principaux sur le terrain. Cavani, Neymar, Mbappé, Verratti. Il y avait l'équipe type. Il n'y a aucune raison pour perdre ce match.
Est-ce que d'un autre côté, Manchester City, a réussi une série de 44 matchs sans défaite en Coupe nationale? Mine de rien, est-ce que ça ne met pas aussi en valeur cette incroyable série de 44 matchs sans
défaite? Ça s'arrête à un moment.
Enfin, bien sûr. On critique pas la défaite. Toute équipe a le droit de perdre. Oui. On critique la manière dont l'équipe a joué. Il y a eu 77% de possession, je crois, 18 tirs de la part du PSG. Ça jouait à la baballe. Ils voulaient pas y aller.
81e.
C'est un match qui est qui a pas de sens.
En plus des décisions arbitrales aussi,
c'est improbable, hein. Et tu concèdes 3 pénaux en une seule période, voilà. Ce qui est une première dans l'histoire du
Mais par contre, après il y a des stats intéressantes qui ressortent quand même sur Bernat et Kirer, qui depuis leur arrivée concèdent beaucoup trop de pénalty. Ouais, c'est des erreurs aussi qu'on aurait pu éviter.
Tu fais ça en Coupe d'Europe, ça pardonne pas. Exactement. Ça se joue à des petits détails et ça
c'est ce genre de détails
évidemment.
C'est eux qui sont alignés.
Mais une fois plus, Paris était qualifié à la 81e minute. C'est ça moi qui m'a gêné plus.
Oui, c'est le relâchement. C'est le relâchement. Coupable,
ils nous refont une Liverpool où ils reviennent à la 80e.
Mais parce que inconsciemment, ils disent c'est Guingamp, on est chez nous, il ne peut rien se passer.
Ben, inconsciemment, André Di Maria l'a reconnu au micro de Bruno ce matin, on n'était pas sur
la faute de Thilo Kehrer. Thuram, il est tout seul, il y a 5 Parisiens, il ne doit jamais. Quand je le vois
partir, je me dis mais c'est pas possible. Il ne va pas aller au bout.
Même lui n'y croit pas.
Mais bien sûr.
Il n'essaye même pas un geste incroyable. C'est
Après, sans doute, après le pénalty raté par Guingamp et l'ouverture du score de Neymar, on s'est tous dit
c'est clair.
Le problème, c'est que aussi on a cette même attitude que nous dans le stade ou devant son écran, on pouvait avoir. Après, de là à parler de faute professionnelle ou autre, quelque part, ça peut les humaniser. C'est-à-dire 44 victoires de suite. Dans ce cas-là, on décrète que Paris n'a pas le droit de perdre du tout, ni en coupe, ni en championnat.
Pour conclure sur cette défaite, Joss, et après,
ça peut être une défaite qui va leur faire du bien aussi.
On n'ira pas en finale de Coupe de l'Est.
Oui, déjà, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est pas le fait de perdre. Ils ont le droit de perdre, bien sûr. Ils sont humains. Voilà, c'est plus le relâchement, la manière. On aurait perdu contre une équipe qui est meilleure. Il n'y aurait pas eu, je pense, ce débat-là, mais comme on l'a dit...
En fait, il n'y a pas d'équipe meilleure en France.
Non, mais il y a des équipes qui peuvent leur rentrer dedans et tu sens qu'il y a vraiment un petit combat. Là, Guingamp était en dessous et voilà, ils ont profité du relâchement du PSG, de certaines erreurs défensives et aussi, moi, j'aime bien critiquer les arbitres personnellement. Moi, je les critique parce que maintenant, il y a la VAR, donc on peut critiquer, il y a la VAR. Même avec la VAR, on ne comprend pas.
T'as raison, parce que la VAR, en fait... Tu fais appel à elle ou pas. Donc finalement, de nouveau, il y a une décision de l'arbitre.
On sait qu'à l'image, parfois, il y a des actions qui restent totalement ambiguës.
Quoi qu'il arrive, tout reste une question d'appréciation. Donc après, la vidéo aide, mais la vidéo ne peut pas tout régler.
Pour conclure sur cette défaite surprise contre Guingamp, Émilie, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'elle reste en travers de la gorge des supporters?
Il y a Michel Dantec qui nous dit « Prestation médiocre à Amiens, c'était lent, c'était stéréotypé, c'était nul ». Et ça fait 6 matchs que ça dure. Et Joanie nous dit la victoire contre Amiens, c'est juste un cachet d'aspirine par rapport à la gueule de bois de Guingamp. Et je trouve ça très très bien résumé.
D'accord. Donc Guingamp, on a déjà visiblement tourné la page. Et pour ce qui est d'Amiens, pour conclure sur ce week-end de championnat, ce qui était quand même du positif à retenir malgré tout, c'était quand même pas
mal. Belle séquence. On parlait des 6 matchs, effectivement, une sorte de décompression après Liverpool. Et Mbappé était un peu moins performant. Le problème d'Mbappé, c'est qu'il est tellement Di Maria le voit Ballon d'Or, mais tout le monde l'imagine Ballon d'Or. Ouais. Et il reste plutôt à savoir comment il en aura dans sa carrière. Mais là,
pour l'instant, il n'en a pas.
Pour l'instant, il n'en a pas.
Il faut arrêter. Parce que ce joueur, moi, je l'adore.
Je vais faire la liste des mecs qui devaient avoir le Ballon d'Or.
On aime tous Mbappé, mais moi, je veux rentrer dans son jeu. Il a dit qu'il ne faut pas parler d'âge. Donc, on ne va pas parler d'âge. Je suis désolé, en ce moment, on ne parle pas d'âge. Il n'est pas bon.
Même si
il
c'est vrai que sur le
Bayern justement.
Restons sur le Bayern, c'était quand même pas si mal.
Oui, mais c'est sur cette période-là qu'on parle et justement c'est souvent à ces moments-là que Paris faiblit un petit peu et que justement on arrive en Coupe d'Europe et on rate le coche. Là, c'est maintenant que justement l'équipe doit monter en puissance, doit s'affirmer, doit montrer que tous les efforts qui ont été fournis durant la première partie, c'était justement que de l'échauffement et que là ils sont prêts
quand même,
à attaquer.
En deuxième mi-temps, il enrume complètement Adenon qui prend un deuxième jaune. Marque sur une belle passe d'aide de Cavani.
Dans la globalité, en fait, il y a plein de trucs qui sont évitables et qui, en fait, des fois ralentissent le jeu. Mmh. Des petites fautes, oui, de jeunesse, mais vu qu'il veut pas qu'on parle d'âge,
Et au passage, on va pas parler d'âge, mais par contre, un autre chiffre, c'est devenu ce week-end, tu ne me corrigeras pas, je pense, tonton, le 20e buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 39 buts.
Hein, déjà.
Ce qui est quand même
déjà,
ouais,
ça
c'est
va
énorme.
Très vite, ça va
après,
très vite.
Après,
il
craque. Rapide. Mais voilà. Kylian Mbappé, il paye, comme beaucoup de joueurs qui sont allés loin en Coupe du Monde.
Ça pourrait être allé loin, il est allé loin.
Non, mais pas un garçon comme Thomas Meunier qui a joué autant de matchs du monde que lui, puisqu'ils finissent troisième avec la Belgique. Pioche aussi un petit peu.
Meunier, il pioche sacrément. Voilà,
mais lui, c'est physiquement.
Mais on sait très bien que c'est difficile.
Il paraît
lourd,
même sur le
terrain.
Il paraît
lourd, certes, à 20 ans. Il a eu une énorme saison l'année dernière. Il a eu pas énormément de vacances. Il y a beaucoup de choses à digérer. Et c'est normal, sûrement à cette période, d'être un petit peu dans le dur. Après, et c'est pour ça que ce stage, entre guillemets, à Doha, doit permettre aussi de niveler un peu les niveaux physiques et de se refaire, alors pas du foncier comme pendant l'été, mais quand même une remise à niveau pour pouvoir enchaîner jusqu'à la fin du mois de mai.
Mais j'ai quand même la sensation que c'est toute l'équipe qui pêche, finalement, même Cavani... l'action qui rate
contre Guingamp, ce qui rate là justement,
c'est incroyable.
C'est le but qui doit tuer le match.
Il y a un gros loupé par contre à Amiens, là aussi il y a reprise, il y a quand même une super belle passe D pour Mbappé en plus. Positif pour la relation technique entre les deux joueurs.
Ils ont fait le boulot, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça, ils ont fait le boulot, c'était bien, il fallait se rassurer, ils n'allaient pas enchaîner avec une deuxième défaite parce que là ça commençait à faire un peu désordre. Donc voilà, ils ont fait le boulot, ça n'a pas été extraordinaire dans le jeu, mais comme dirait l'autre, on s'en contente.
Et après, il y a aussi certains supporters avec qui je discutais, qui disaient que finalement cette défaite, c'était peut-être pas plus mal sportivement parlant et physiquement parlant pour pouvoir gagner du temps et en fait avoir effectivement plus de temps de prépa, etc.
Parlons peu, parlons bien. L'objectif, c'est Manchester. Donc, on oubliera tout. Si ça se passe bien contre Manchester, on ressortira tout si ça se passe pas bien contre Manchester, évidemment. Et
ça,
on dira, ah mais Guingamp, c'était un avertissement,
et Qatar, etc.
S'ils sortent Manchester, c'est le rouleau compresseur, ils continuent, et finalement, ça aura été qu'une...
Ils seront très contents d'avoir une date, la date de la finale de la Coupe de la Ligue, qui ne sera pas, parce que c'est une journée de championnat, qui ne sera pas décalée, ça fera...
Ils ont gagné deux matchs, c'est tout bête à dire, mais oui, bien sûr.
Potentiellement deux matchs.
Potentiellement deux matchs.
Allez, messieurs, dames, les amis, avant de parler du mercato, bien sûr, on va s'offrir une grosse page mercato dans quelques minutes. Mais d'abord, donc, je l'ai promis, parfum de légende dans ce studio, avec notre invité Arnaud Ramsey, qui sort donc ce livre 11 de légende. Je vais le montrer un petit peu à l'image, même si la caméra est lointaine. Le voici. Ce très, très bel ouvrage, donc, signé Arnaud Ramsey chez Solar Edition. 11 joueurs, les 11 joueurs parisiens qui vont le plus marquer. Alors, faisons la liste. Les amis, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce 11 de légende?
Moi, je sais.
Pedro Miguel.
Pedro Miguel, il est là. Un autre.
Paoletta,
donc oui, voilà. Pedro Miguel.
Je te dis la vérité.
Je t'ai détendu tout de suite. D'entrée, je t'ai climatisé. Suzy qui est bien là,
tout
va bien.
Ronaldinho,
il est là.
Ibrahimovic
est là aussi.
Neymar.
Jusque-là, tout le monde.
Moustapha Dalèb.
Neymar est là. Dalèb, Moustapha Dalèb.
Mbappé
est là aussi également.
Bernard Lama.
Kylian Mbappé là. Bernard Lama est là.
T'as regardé la couve?
Non,
plus, il ne triche pas.
Mario Yepes.
On ne peut pas tricher. Louis Yepes, non, même pour rigoler, c'est pas
Louis Fernandez, bien sûr.
Louis Fernandez, on les a quasiment tous. Est-ce qu'on en... Oui, il en manque quelques-uns quand même.
Jean-Marc Pilorget.
Pilorget non plus.
C'est le record même des matchs.
Yaraï, bien sûr.
Yaraï,
bien sûr. Heureusement qu'il est là, Rai.
Personne n'a cité Georges Weah quand même.
Il me semble que voilà. Ronaldinho, on l'a cité.
Ouais, Ronaldinho.
On l'a cité, bon bah voilà, tout le monde est là.
En fait, il y en a 12.
Choupo-Moting n'est pas encore là.
C'est un 11 avec un entraîneur.
Autant dire, Arnaud Ramsey, que ce 11. Il est magnifique, il est splendide. Il sent la légende à 10 mètres, à 100 mètres, mais il n'est pas très défensif quand même.
Bah écoutez, Bernard Lama, c'est un gardien de légende.
Il y a un gardien et 11 attaquants.
Qui sont les défenseurs? Il a même joué gardien de but une mi-temps à Metz, un match.
du Paris Saint-Germain en fin de saison quand il était joueur. Mais effectivement, ce travail, c'est ce qu'on appelle un beau livre réalisé avec Greg, qui est illustrateur, qui vient de la publicité, qui a réinventé un peu cette histoire du PSG. L'idée, c'était, sans prétention, avec l'accord du PSG, de revisiter un peu toute l'histoire du PSG, parce que la préface, et moi j'y tenais, elle a été réalisée par... par le père et le fils, par Jean Djorkaeff, qui était la vraie star du Paris Saint-Germain, parce qu'il était capitaine de l'OM et de l'équipe de France quand il a signé au PSG, qui était l'équivalent de la Ligue 2.
Pendant que vous parlez, Arnaud, notamment beaucoup cette image-ci de Kylian Mbappé en super-héros. Il y a un gros travail d'illustration.
Exactement.
C'est autant de l'info que du spectacle, ce livre.
Ouais, puis Greg a imaginé visuellement que cette équipe, même si elle est extrêmement offensive, joue ensemble. Donc on a réinventé Daleb qui puisse jouer avec, faire une passe décisive à Ibrahimovic, par exemple. Évidemment, c'est subjectif, mais moi qui ai travaillé longtemps à France Football, on a reproché à France Football, ce qui est normal, dans les Ballons d'Or, d'avoir que des attaquants, voire des milieux offensifs. Il y a un seul gardien de but dans l'histoire des Ballons d'Or, c'est Lev Yashin, très très peu de défenseurs, et Beckenbauer, Sammer et Cannavaro, et on retient que ceux qui font spectacle, ceux bien pour sûr. Qui on s'élève. Donc Pilar Gé, moi, à titre personnel, j'aurais mis sans doute Dominique Rocheteau, j'aurais mis David Ginola, parce que...
Je pense que c'est le seul qui manque. C'est Dominique Rocheteau qui était énorme à l'époque où il portait le maillot du Paris Saint-Germain.
Même s'il a marqué aussi l'histoire de Saint-Etienne, mais c'est subjectif par nature, mais voilà, c'est un beau produit, beau livre.
Est-ce qu'ils auraient pu jouer ensemble quelques-uns de ces grands joueurs parisiens, Daleb, Suzic, Ibrahimovic, Mbappé?
Oui. On peut penser qu'il y aurait eu une certaine affinité technique.
Clairement.
Alors, Ronaldinho Mbappé, ça aurait pu être. Ça aurait pu avoir de la gueule aussi. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. En tout cas, elles font toutes saliver, évidemment. Émilie, qu'est-ce qu'on en dit? Et après, la parole.
Il y a Mathieu qui nous demande, Arnaud, il a une suggestion. Est-ce que, après le 11 de légende, peut-on créer les 11 bids des transferts
d'hivernaux? On a tous une idée, hein.
Et là, voilà.
On en a plusieurs même.
C'est possible,
il peut y en avoir un petit peu plus que 11.
11 bits de légende. Voilà.
Les 1000 bits.
Sous une quarantaine d'années, il y a forcément un peu.
Mais c'est une bonne idée, j'ai proposé à l'éditeur peut-être.
Avec des belles illustrations.
Mais il n'y a pas que des transferts d'hiver. En été, il y a eu des échecs.
Ah, bien sûr.
Dalmat, Luxin. Everton,
les plus beaux, les plus magnifiques.
Martel,
les
plus... James Deba, tout ça, c'est du haut de gamme. Hein.
C'est Mac.
On passerait la soirée à sortir.
C'est Mac, il est légendaire, ce bide. C'est Mac, incroyable, ce bide.
C'est Mac, il en met trois.
Il en met trop, on l'achète.
On l'achète. Et après, bon, il y en a eu tellement.
Il y en a eu trop,
il y en a eu trop. Si on vient à ce 11 de légende, là, pour le coup, c'est vraiment pas des bides, ils te font rêver, ces 11 joueurs, Joss.
Moi, j'ai une question. Peut-être deux questions.
J'ai peut-être des réponses.
Est-ce que vous avez mis Cavani dedans?
Oui, je crois qu'on l'a pas cité.
Ah, il est vrai qu'on l'a oublié.
Si vous l'aviez pas mis, je vous ai demandé pourquoi justement.
Il y est,
d'accord. Okay.
C'est le
meilleur buteur. Ouais,
t'es obligé.
Non, il mérite sa place. Après, c'est sûr qu'on peut reprocher d'être trop actuel, parce que le PSG est un jeune club, mais il a quand même bientôt 50 ans. Donc il y a beaucoup de joueurs actuels, de Neymar, Mbappé, Cavani. Ibrahimovic apparaît très loin, mais c'est aussi très récent. Mais oui, Cavani fait partie évidemment de cette histoire. Et il figure dans le 11 de légende, qui est plutôt un 12, parce que Luis Fernandez, qui a été un peu le couteau suisse du PSG, parce qu'il a joué une mi-temps gardien de but, il a été au centre de formation, il a été joueur longtemps, entraîneur. Là, il a un poste un peu confus,
hybride. Il a été l'entraîneur de la victoire.
Mais bien sûr, entraîneur, directeur sportif.
Bien sûr, 96.
Voilà, on en parle depuis 5 minutes maintenant de ce très très joli bouquin 11 de légende. Il vous fait envie, j'en suis sûr. Et bien, si vous partagez cette émission, il est à gagner maintenant, tout de suite. Tirage au sort à la fin de l'émission. Donc, si vous partagez cette émission Tribune PSG, ce très bel ouvrage est pour vous. Merci, Arnaud Ramsey. Ben voilà, évidemment, c'est normal. On n'est pas venu les mains vides, Arnaud Ramsey. Ce n'est pas venu, il m'invite. Donc voilà, partagez cette émission et il sera pour vous avec un petit peu de chance. Voilà, je prends la pause pour Arnaud Ramsey, c'est fait. Et maintenant, hop, après ce petit parfum de légende, on va essayer de savoir si la prochaine légende parisienne va bientôt arriver du côté du Camp des Loges. L'actu la plus bouillante, hein, on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, même si le PSG sous le soleil du Qatar, c'est pas à Doha qu'elle se passe, c'est dans le cerveau d'Antero Henrique. Ça y est, on dirait que ça se précise, hein, du côté d'un milieu défensif, du recrutement d'un milieu défensif, Idrissa Gueye d'Everton en pole position. Vous confirmez, Bertrand Métayer, c'est quoi les échos que vous avez?
Il est en train un petit peu de sortir du lot, mais Thomas Tuchel n'a pas abandonné l'idée de récupérer Weigl, qu'il a connu à Dortmund, qui est un peu en rupture de banc avec Lucien Favre. Et il l'aime beaucoup, il l'échange avec lui. Après, Idrissa Gueye, c'est un très bon milieu de terrain. Je
pense mais Everton est en train d'essayer de faire monter
Everton
la.
Everton a vu arriver un peu gros comme une maison de PSG.
Et d'un coup, ils ont un amour pour lui. Évidemment.
Everton, ils demandent 45 millions d'euros. Pour une sentinelle qui est considérée deuxième meilleure sentinelle après Kanté.
Ouais, ouais.
Je trouve pas que c'est excessif.
Non,
mais le joueur a l'air intéressé et bah c'est un très bon joueur parce que.
Alors, moi, je voudrais te dire que pour rebondir sur Weigl, j'ai discuté avec un confrère allemand il y a quelques minutes, juste avant de venir à l'émission, et lui me disait que Dortmund ne le lâchera pas avant l'été.
Non, ça se joue en ce moment en tout cas.
Il y a évidemment plusieurs dossiers et tout le monde il y a un petit jeu de poker menteur. Évidemment, heureusement que Paris a quand même est sur plusieurs pistes. Moi, je trouve qu'il y a urgence. Ce serait quand même bien. C'est toujours le problème de ce mercato qui dure un mois, mais en fait, il pourrait durer trois jours parce que
tout se passe à la fin.
À la fin, voir une soirée.
Le soir du 30
et sauf que ce mercato, il se termine moins de deux semaines avant le déplacement à Manchester. Jamais il y a besoin de cette recrue, quelle qu'elle soit, pour jouer à Old Trafford, il aura un ou deux matchs avec ses nouveaux coéquipiers et c'est pas une bonne solution. Bah, on a vu l'année dernière que Diarra, qui a été un flop de recrutement pour d'autres raisons, il a des problèmes physiques et tout ça, mais il est arrivé aussi très très tard dans les dernières heures du mercato et il était pas du tout prêt.
Tourelle l'a dit, c'est très difficile de faire des transfert intéressant dans cette période-là de l'année.
Le problème du PSG, c'est que le 6, au-delà du Carabiot, dont on sait qu'il ne va pas jouer et qu'il va partir,
et qui allait quand même, il faudra m'expliquer pourquoi, bon là il a eu un souci familial, au Qatar. Il était prévu jusqu'au bout qu'il fasse le voyage avec les autres. Il y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on voit ça. D'un côté, t'as un mec qui est interdit de séjour sur le terrain. Il a plus le droit de jouer alors qu'il est en pleine forme et qu'il fait tous les entraînements si on en croit Tourelle. Et il les fait bien. Tous ses coéquipiers disent que c'est un mec indispensable. On veut l'emmener au Qatar pour promouvoir l'image du PSG. Et c'est parce que apparemment il y a eu un deuil dans sa famille qu'il a pas fait le voyage. Donc c'est quand même un truc fou. Il va falloir à un moment. Qui prend la décision?
Mais d'ailleurs, Thomas Tuchel commence à en avoir un peu assez.
Il
le dit ouvertement. Mmh. Lui, il aurait envie de pouvoir l'utiliser parce que Paris est en train de se tirer une balle dans le pied.
Bah évidemment.
Alors peut-être que.
Sauf s'il le vend d'ici la fin du mercato.
Ouais, mais bon, c'est quand même pas vraiment ce qui est en train de se dessiner. En tout cas, lui, c'est pas ce qu'il souhaite. Voilà, il est un peu acté dans sa tête qu'il irait au bout de son contrat. Franchement, il n'a pas pris complètement le Paris Saint-Germain en traître à ce niveau-là. Il a le droit aussi d'aller au bout de son contrat. Je pense pas que...
On a le droit de ne pas le faire jouer aussi.
Oui, mais alors,
est-ce que c'est moi une énorme prise de risque?
Mais non, c'est toujours le souci.
C'est un peu puéril, en fait.
C'est toujours le souci
de la part de.
Non, mais après, c'est le souci de cohérence. Tout à l'heure, tu parlais de la Sanadjara qui arrivait hors de forme. Mais Weigl, c'est pareil. Weigl, il joue pas. Dortmund, il est pourtant blessé. Là, tu regardes les 6 derniers matchs. Il apparaît même pas sur la feuille de match.
Donc, autant faire jouer Rabiot, qui est là, qui est sous contrat.
Non, mais on est obligé d'acheter des joueurs pour, de toute façon, insouffler du sang neuf, des gens qui vont revenir avec d'autres.
Il y a un besoin. Mais de toute façon,
moi, je trouve que c'est la bonne solution.
Ce serait une bonne pioche. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ce serait une très bonne pioche pour Paris, même s'il est un peu plus âgé. Il a encore quelques belles saisons devant lui. Et alors, même s'il y a un doute, parce qu'il a. Mais il a pas un passé en Coupe d'Europe.
12 matchs.
Très, très important. Donc, il y a un petit doute, mais il est bon en première ligue. Donc, on peut penser qu'il peut passer le cap.
Qu'est-ce qu'on en dit, Émilie, sur le live d'Idriss Agueil en général de ce mi-mercato?
Pas une très, très bonne idée de la part du Paris Saint-Germain.
Sur le Facebook Live. Alors ça réagit, autant vous dire que Antero Henrique s'en prend un petit peu plein les oreilles. Je vous fais un
pêle-mêle.
Il y a Globule qui nous dit sinon le non-travail. Alors elle l'appelle Antero
Henrique. Ouais.
Voilà. Depuis 4 mercato, on en parle. Il y a Fatou qui nous dit ils ont été tout simplement suffisants. Perrine nous dit Antero est nul dehors et Kevin nous dit il nous faut un nouveau directeur au sportif.
Oui, mais c'est facile de dire ça, mais. On prend qui en 6 qui est bon et qui a un niveau Ligue des Champions de disponible.
Non mais je pense que c'est l'accumulation, même si t'anticipes,
ça fait quand même 3 ans. On sait qu'il faut.
D'accord. Mais là, on est dans le contexte de cette année.
Ça, c'est honnêtement, ça les amis. Même se présenter l'année d'avant et il a prolongé d'une année.
D'accord.
En disant c'est la dernière et après je.
Mais là, on est cette année, c'est une nouvelle année, donc partons sur autre chose. Là, même si t'étais cet été.
qui c'est que tu prévois en 6 pour cet hiver?
Mais le problème du Paris Saint-Germain,
il ne faut pas le prévoir cet hiver.
Je vais répondre à la question.
Dis-moi juste des joueurs.
Mais la question, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est est-ce que Paris a l'argent? A le droit de dépenser son argent.
Non, mais même...
Paris peut faire venir n'importe qui.
Mais non. Kanté, il a refusé. Kanté a refusé. Casemiro, tu
déjà
fais venir.
Visiblement, l'enveloppe, elle est limitée. C'est 30 millions alors, déjà.
Ah oui, non, mais
je t'achète pas si l'enveloppe, si l'enveloppe est, oui, mais est pas limitée.
Tu vas pas te faire ta charge contre le Verdun.
Mais oui.
À chaque émission.
Bien sûr que si.
Il est là. Tu voudrais pas venir. On a tout misé sur Kanté l'année dernière. Il nous a dit non.
Tu prends un mec de Ligue 1 qui est bon et pour 30 millions, tu peux peut-être même t'en payer. Les
Mangrenier.
Apparemment, la piste de Jong, en fait, elle serait activée pour cette.
On y revient. De Jong, on en parle tout à l'heure. Dans deux minutes.
Et juste, j'ai une question parce qu'il y a Mathieu qui demande. Et j'avoue que je n'étais pas au courant. Dites-moi. Auriez-vous entendu cette info où Choupo voudrait déjà plier bagage et aller en Turquie?
Alors, on peut répondre sur Choupo-Moting, puisque visiblement, il a dit ce matin, notamment Bruno, au micro de Bruno, qu'il était bien à Paris. Alors, visiblement, effectivement, il est pisté par certains clubs, notamment Beşiktaş. En tout cas, c'est les rumeurs qui courent. Mais apparemment il se sent bien à Paris.
Il se sent bien. Il a des copains. Il est parfaitement dans son rôle. On lui a. Bah si, parce qu'on on lui a pas vendu.
Qu'il on lui a pas vendu.
J'ai souri.
Non,
j'ai rien
dit. J'ai fait la même que toi, je pense.
Et voilà. Enfin,
pourtant je l'aime.
Là, pour le coup, Thomas Tuchel. Bon, cette semaine, je pensais qu'il allait jouer un peu plus que quand même, les petites 10 minutes là, qu'il a eues à Amiens.
Il est extrêmement limité techniquement.
Il est beaucoup trop limité.
Après, moi, j'aimerais bien le voir avec un peu de rythme. Le problème, c'est comme beaucoup de ces joueurs qui jouent très irrégulièrement. C'est très difficile. Alors, on peut faire illusion 10-15 minutes, même en Ligue des Champions, en fin de match, parce qu'il y a un peu de fatigue. Et jouer avec Neymar et Mbappé, il y a de la qualité technique qui fait que c'est un peu plus simple, mais quand il a débuté à Marseille, il a été horrible, Choupo-Moting, mais le pauvre,
Mbappé rentré,
depuis,
ça,
voilà, mais depuis, bien, depuis quand, vu, depuis quand il jouait pas, et n'importe quel joueur, voilà, Dani Alves, il revient, il a du mal parce qu'il a pas joué pendant des mois, voilà, Kurzawa qui n'est que Kurzawa, enfin, il a aussi du mal.
Pareil, Choupo et Dani Alves.
Non mais n'importe quel joueur qui reviendrait, si Neymar s'était fait les croisés et revenait au bout de 6 mois, il serait pas bon le premier match, c'est évident.
Alors il était évident que Émilie étant là, on allait faire 5 minutes sur Choupo-Moting. Ça y est, c'est fait.
Oui, excusez-moi.
C'était les 5 minutes Choupo-Moting, c'est voilà. Donc tu es rassuré, il reste.
Voilà.
Effectivement, il a au moins un certain poids dans le vestiaire et parfois sur le terrain, mais pas très souvent.
Voilà. Bref, si on pouvait jouer milieu de terrain, ça pourrait être bien, parce qu'il y en a besoin.
Ouais, alors justement, si on revient au milieu de terrain quand même, Thomas Tuchel a exprimé une certaine impatience, parce que c'est pas que depuis le début de ce mercato d'hiver qu'on attend un milieu défensif. On l'a attendu tout l'été, donc et quand même, je repose la question, mais répondez-moi clairement, est-ce que on n'a pas attendu beaucoup trop longtemps? Est-ce que Antero Henrique, est-ce que la direction du Paris Saint-Germain ne dégaine pas trop vite?
Avant de parler d'argent ou même de fair play financier, quels sont les profils aujourd'hui disponibles? Je répète cette question. Citez-moi les joueurs disponibles niveau Ligue des Champions qui vont apporter un plus au PSG. Aujourd'hui,
déjà numériquement, on a quasiment plus de milieu défensif, il en faut bien un.
Non mais là on n'est même plus dans niveau Ligue des Champions, dans niveau on a besoin tout simplement. Voilà, tu joues avec Verratti, tu prends
court,
tu mets tout le monde aura été essayé au milieu de terrain.
Bah dans ces
Daniel
cas-là,
Alves,
okay, alors,
Bernat, Di Maria, Marquinhos, Draxler.
Dans ces cas-là, on fonce sur Jagel hors de forme à 40 millions, on se retrouve encore avec un joueur
Ah mais Idrissa Gueye, s'ils arrivent à le faire à 30 ou 35, c'est très bien.
C'est
parfait.
Pas mal,
ouais. Mais là, aujourd'hui, je crois que faut même plus demander un niveau Ligue des Champions. Faut juste, pour finir la saison, quoi qu'il arrive, déjà avoir un milieu de terrain supplémentaire si tu perds Rabiot en cours de route. Ce qui est probable.
Oui, parce qu'il n'y a pas que Manchester. Il va falloir jouer. Il y a quand même un certain nombre de matchs.
Bien sûr.
Mais ça, c'est pour la Ligue 1. Mais... honnêtement, si on aligne un milieu Marquinhos Verratti face à Manchester United...
Ah oui, c'est très bien. Non, mais ça va, ça tiendra la route. C'est le problème, c'est
si un souci, t'es très confiant.
Bah, moi,
le milieu de Manchester United, c'est des géants techniques. Matic, Herrera, voilà, et Pogba. Donc Marquinhos, Verratti, ça va être léger, je pense, honnêtement.
Bah oui, mais c'est,
et c'est pas Draxler qui est
eux,
hors de
c'est,
forme.
C'est eux qui
en tous les cas, c'est pas un petit PSG qui éliminera cette équipe.
Hein. Ça, c'est sûr.
Que s'ils veulent passer, les faire passer à la trappe, il va falloir du high level.
Hein. Bah, ouais, du high level. On va y revenir dans quelques instants pour terminer cette séquence mercato. Le petit point Rabiot indispensable, évidemment. Tonton, qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle séquence, sachant qu'on sait toujours pas là aussi. Il y a de quoi s'impatienter un petit peu, parce qu'au moins, si le cas était réglé, on pourrait tourner la page. Ce n'est toujours pas le cas. Il n'a toujours pas signé. Visiblement, il y a d'autres clubs, pour ne pas les citer, le Bayern et Chelsea qui s'intéressent à lui.
Je vais te dire, franchement,
comment ça va se terminer, tout ça?
Je me régale en écoutant les émissions, en regardant les journaux, en écoutant les coéquipiers, ex-coéquipiers de Rabiot, ce gars-là qui est traîné dans la boue par le public, qui ne pourra plus jamais franchir fouler la pelouse du Parc des Princes sous peine de se faire... Eh ben, tous ses coéquipiers ont l'air de dire quand même que c'est un mec bien, que c'est un mec qui était indispensable. Son entraîneur n'en dit que du bien. Pour un mec qui est tellement tricard, moi, je dis plus rien puisque j'ai tellement été l'avocat de Rabiot, mais je laisse les autres parler et ça me fait plaisir d'entendre que quasiment tous les gens vont dans le même, les gens qui sont proches du club vont dans le même sens que moi.
Mais personne ne dit que c'est un mauvais joueur. Ouais. C'est juste, en fait, ce qui est détonnant, et parce que c'est assez rare, c'est quelqu'un qui prend à rebours en fait le système économique, la façon dont est organisé le football actuel. Alors, il faudrait qu'il prolonge pour qu'il fasse gagner de l'argent à son club. Et lui, il a dit non, il veut sa liberté. Moi, je trouve ça assez singulier, mais assez réjouissant de voir que quelqu'un, moi, si je signe un CDD, je vais au bout de mon CDD. Et pourquoi pas décider de le faire de cette façon?
C'est inconcevable de dire ça, parce qu'il y a eu des réunions qui ont été mises en place. S'il avait fait son choix depuis le début, fallait être honnête avec le club, et peut-être que le club aurait pu anticiper le recrutement d'un milieu de terrain. Tu peux pas dire
Il est pas là pour faire plaisir au PSG, pas seulement en tout cas.
Il est employé du club quand même. Il n'est pas au-dessus du club.
Mais il n'est pas mis en faute. Il continue de s'entraîner tous les jours. Son cas crispe un peu parce que sa personnalité, parce que sa lettre à Deschamps absolument ridicule, et puis son attitude, ses liens avec sa mère qui est son agent. C'est ça qu'on lui reproche un peu, une sorte d'arrogance.
C'est pas ça. Ce qu'on lui reproche, c'est son manque d'honnêteté. Il savait depuis le début qu'il voulait pas prendre. Fallait qu'il le dise plutôt que perdre du temps de multiplier les réunions.
Qui l'a dit qu'il n'allait pas. Je pense pas qu'il aurait pu prolonger si il était peut-être gourmand financièrement et autres. Mais...
Donc vous croyez à la version de la sanction à Marseille lui aurait fait changer d'avis? C'est ça la version qu'il a dit.
Ah là, c'est ça sera la sanction marseillaise. On n'est pas dans sa tête.
Hein, je crois. Donc c'est
mieux. C'est sûr que c'est un joueur hors norme. La preuve, c'est que le feuilleton n'est toujours pas terminé pour clore cette page mercato.
Tout le monde est perdant.
Oui, c'est vrai.
Lui, comme le PSG.
On est d'accord.
Dans 15 jours, on saura.
Mais s'il va au bout, il aura sa prime à la signature.
Mais s'il n'aura pas joué pendant 8 mois,
il va forcément transférer dans un top club. Il le sait.
On n'est pas à l'abri d'une surprise. Il peut très bien rester. Et pourquoi? Pourquoi pas jouer et pourquoi pas encore continuer à marquer l'histoire de ce club. Il est tellement hors norme ce genre, on ne sait pas.
On va se régaler.
Voulait juste se faire dire.
Je mets un billet sur le fait qu'il va jouer. Hein, parce que Thomas Tuchel va tout faire pour le faire jouer.
On n'est pas à l'abri de ça et ça pourrait être positif. Tout est possible.
Mais on en parle de ces dernières
performances. Pour clore cette période mercato, pour clore ce petit chapitre mercato, il y a un autre milieu de terrain qui est peut-être aussi qui va peut-être arriver au Paris Saint-Germain, mais alors pas maintenant cet été. C'est Frenkie de Jong. Là aussi, ça se précise peut-être un peu. Bertrand, t'as des infos?
C'est aussi une lutte avec Barcelone. Tout le monde est en train de placer ses pions. C'est un garçon qui a l'air d'être d'accord avec tout le monde. Mais je pense que financièrement, il se retrouvera partout. Il avait dit qu'il prendrait sa décision d'ici la fin du mois de janvier pour l'année prochaine, hein, parce que l'Ajax va pas le lâcher. Ils vont jouer le Real. Ils ont envie un peu de garder cette équipe. C'est un super joueur. Vraiment, c'est un super joueur. C'est un profil qui fonctionnerait très bien à Paris. Après, ça a l'air de monter un petit peu dans les étoiles au niveau du prix.
Ouais, et puis le Barça a toujours attiré les Hollandais. Hein. Ouais. C'est une vraie longue histoire de 50 ans.
Et du coup, le média étranger et non des moindres qui annonce ce matin que Frenkie de Jong se serait mis d'accord avec le PSG. Évidemment, c'est AS hein, qui est plutôt le quotidien madrilène et qui est bien content de sortir cette info ou pas, ça on le verra plus tard. Et par contre, le Mundo Deportivo qui est du côté de Barcelone. Lui annonce que l'accord il est fait avec Barcelone, on n'a pas fini d'en parler.
Donc après, voilà. Faut trouver un accord entre les clubs.
Donc, ouais. Voilà, et voilà. Donc,
ça va être un petit feuilleton.
Le feuilleton, sympa. A priori, n'est pas prêt de se terminer du côté du PSG pour Frankie de Jong. Allez, on termine cette émission, bien sûr, avec ce qui va devenir notre chapitre de conclusion incontournable jusqu'au 12 février, bien sûr, le 12 février, moins d'un mois donc avant le choc Manchester United, PSG 8e de finale, aller de la Ligue des Champions. Et plus les jours passent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plus quand même.
Plus les regards sont tournés vers Joss.
On tremble un petit peu.
Qui l'avait prédit.
Devant ces Red Devils qui enchaînent les matchs et qui enchaînent les victoires depuis leur changement d'entraîneur. 6e victoire. Alors jusque-là, on pouvait dire, ok, oui. ils ont joué que. Là, des adversaires pas énormes. Là, c'est quand même une victoire à l'extérieur, à Tottenham, 1-0. Le 3e du championnat, ça commence un petit peu à faire peur.
Alors oui, évidemment, ils sont en plein boom et en pleine renaissance et on sent que l'effet Solskjaer est vraiment efficace. Après, sur le match d'hier, heureusement que Derea est là, qui leur fait, il est exceptionnel. Ah ouais. Exceptionnel. Là, il fait 11 arrêts. Ouais. Et vraiment, là, parce qu'en fait, c'est bizarre. Je les ai trouvés très bons au début, avec un Paul Pogba qui est vraiment le leader technique de cette équipe. Mais en dehors de lui, bon, c'est toute chose égale par ailleurs. En dehors de lui, je trouve que en termes de créativité, c'est un petit peu décevant. Les trois devant, ça c'est un peu les mêmes profils. Défensivement, on sent qu'il y a des trous quand même par moment.
De vitesse aussi.
Donc, c'est évidemment ça va être un très gros choc et tout ça. Mais hier, au-delà de la victoire, je me suis dit il y a quand même. De ce que j'ai vu hier, enfin sur ce match-là qui était un gros match, Paris a quand même les moyens d'aller faire un résultat à Old Trafford et a les moyens de les battre au Parc des Princes. Mais oui, c'est beaucoup plus, ça a l'air plus compliqué qu'au moment du tirage où là ils étaient dans un néant footballistique total. Il y avait plus de, il se passait plus rien dans ce groupe. Ils sont vraiment en train de se faire la cerise. Il leur reste un mois.
Bah, ça prouve qu'ils avaient du talent et que Mourinho était en train de passer à
savait.
Côté du.
Mais les défauts majeurs, notamment défensifs, oui. ils ont quand même
une défense en bois.
Voilà, il est toujours là. Et le jour où Derea, parce que quelquefois ça lui arrive, se déchire, il peut y avoir des occasions. Mais évidemment que ce serait, je ne sais pas si c'est un exploit, mais ce serait un résultat très important.
Ils ont quand même une belle animation offensive qui monte en puissance. Leur contre, ça va à 100 à l'heure. Effectivement, du côté de la défense, c'est beaucoup plus perméable. Face à l'attaque de feu parisienne, ça peut donner quelque chose. Ça nous promet quand même une affiche qui, plus les jours passent, plus elle est alléchante, hein, tonton Joss.
Et elle paraît de plus en plus équilibrée, surtout. Entre le moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, du tirage au sort, où finalement, c'était pas si mal. On avait échappé à tout le monde, mais prendre Manchester, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudra un excellent Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avec l'état d'esprit, avec la manière façon Liverpool ou Naples pour venir à bout de ce Manchester. Mais c'est, il faut pas partir perdant, mais il faut aussi les respecter. Ils ont leur chance eux aussi. Donc il faudra un Paris Saint-Germain 100%.
Joss, toi qui les crains depuis le départ, c'est Red Devils. T'es toujours confiant malgré tout ou pas?
Ouais, je suis toujours confiant. Je les crains pas. C'est juste que moi, je suis beaucoup la Première Ligue et j'avais dit depuis le début que Manchester, après le limogeage de Mourinho, allait changer. Il y a Pogba qui a été repositionné plutôt en numéro 10 derrière les attaquants en soutien. Moi, je trouve qu'ils ont un potentiel offensif incroyable. Ça va super vite avec Rashford qui très est très retrouvé, Martial aussi qui se reprend, Lingard qui est tout aussi intéressant. Le point négatif dans cette équipe, c'est la défense. Mais hier, sur le match face à Tottenham, c'est vrai que Tottenham a manqué de réalisme, mais Manchester a un goal incroyable. Et en Ligue des Champions, on a aussi vu le PSG à chaque fois louper des occasions, tomber face à des gardiens qui se transcendaient. Il va falloir être vraiment très réaliste devant le but, parce que hier, Derea, c'était, comme tu l'as dit, incroyable. 11 arrêts, il a porté son équipe. Mais je pense quand même que le PSG... sérieusement peut faire le résultat là-bas.
Est-ce qu'on y croit aussi du côté du live, Emily?
Bah, Kevin dit exactement comme toi, Joss, en disant ils ont l'un des meilleurs gardiens du monde, voire le meilleur. Et après, effectivement, tout le monde se dit qu'en défense, c'est pas terrible, mais que nous non plus. Donc finalement, la seule chose, c'est ne pas prendre de but là-bas.
Et après, ce qui est bien, c'est ce petit stage à Doha, s'ils pouvaient un peu travailler l'intensité, parce qu'entre Amiens, ce qu'on a vu à Amiens et ce qu'on a vu hier à Wembley, ça a absolument rien à voir. Quoi.
Moi, franchement, ce qui me fait peur, c'est
c'est la bataille du milieu de terrain, honnêtement. Parce que Matic, Herrera, Pogba, c'est des Goliaths, ils sont grands, ils sont rugueux. Pogba, il est très technique.
J'ai peur que ça aille vite.
Et ça va aller vite. Les contres de Manchester, c'est vrai que voilà, il va falloir être très concentré. Mmh. Notamment les latéraux. Meunier, en ce moment, il est super lourd sur le terrain.
Oui, mais je te dis, j'ai l'impression qu'il tourne au ralenti.
Daniel Alves, il est chassé, hors de forme. Donc, je sais pas.
On va remettre en gardien, lui.
Ça sera sûr en tout cas dans un mois sur France Bleu Paris. Allez, en attendant le prochain match, c'est pas les Red Devils, ça sera une autre équipe rouge, mais on a hâte d'y être quand même puisqu'il s'agit des Rouges de Guingamp. PSG Guingamp, la revanche samedi 17h au Parc des Princes, à suivre en direct sur France Bleu Paris,
nous passe pas saucisse,
sur francebleu.fr, et surtout quoi. Pas ni saucisse ni galette bien sûr, même si c'est pas trop à Guingamp que c'est la spécialité. Il y a de quoi être assez optimiste, hein. C'est Bruno qui me disait tout à l'heure que visiblement le rendez-vous est bien marqué sur l'agenda des Parisiens. Draxler l'a dit ce matin du côté de Doha.
Confrontation avec Strasbourg l'année dernière, ça
PSG Guingamp, donc rendez-vous samedi 17h les amis, sur francebleu.fr, sur France Bleu Paris 107.1, et bien sûr maintenant vous retrouvez sur notre site et nos réseaux sociaux cette belle interview que Bruno a signée avec Angel Di Maria, c'est sur francebleu.fr
et qui a été postée dans les commentaires, vous pouvez la retrouver.
Belle interview à retrouver tout de suite. Bonne soirée à tous.
Ciao.